Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood consacré aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, site d'information et de tendances, et
Sandrine Maggiani, Trend Director et Digital Content Editor.
Chaque dimanche, sur le temps d'une conversation entre amis, nous décryptons les tendances mode, beauté, bien-être, déco, food, etc.
Bref, les grands courants socioculturels qui influencent nos comportements et façonnent le monde et le mood moderne.
Bonne écoute.
Alors Sandrine, comment vas-tu ?
Je suis confinée, et toi ?
Moi aussi, je suis confinée, c'est un drôle de combo, confinement... attaque
ouais.
Aux personnes, donc on est dans une humeur un peu étrange.
Oui, vraiment étrange, ouais. Ouais, ouais. Disons que on a un mois pour espérer que tout ça se, enfin, je dirais pas s'arrange, mais progresse dans le bon sens.
Oui. Aujourd'hui, nous, on va parler toujours des tendances, mais sous justement le prisme de la crise sanitaire, celle qui a transformé nos styles de vie, puisque nous n'occupons plus nos lieux de travail ni nos espaces à vivre comme avant, pour quelques jours et depuis de nombreux mois maintenant, des milliers d'entreprises ont mis en place des mesures inédites pour une révolution, hein, le Covid-19. Et du coup... Le télétravail s'est généralisé. Aujourd'hui, c'est presque devenu la nouvelle norme au vu des circonstances qui ne laissent pas présager un retour au bureau 5-7 d'ici à un certain temps. C'est vrai, non ?
Ah oui, mais vraiment, tu vois, 5 jours sur 7 au bureau, c'est terminé. Déjà parce qu'on risque de connaître des périodes de semi-confinement. Et puis parce que on est vraiment au cœur de mutations sociétales exceptionnelles qui changent la conception, l'aménagement de tous les espaces à travailler, à vivre, sur lesquels on se pose beaucoup de questions aujourd'hui quand il s'agit de déterminer le futur du travail et surtout celui de la mobilité.
Oui. Donc, on va changer nos habitudes. On a déjà commencé à changer nos habitudes. Et est-ce que ça va se passer comme on l'a fait pendant le premier confinement, ce deuxième confinement qu'est-ce que ça va, à quoi ça va donner lieu? Que va-t-il advenir des open space qui ont été tellement adoubés, poussés comme nouveau mode de travail?
Tout à fait. Et bon, si on est tout à fait honnête, tous les open space avaient fait leur temps. Hein. Aujourd'hui, moi, je sais que moi comme d'autres, on n'a plus très envie de supporter en open space. Donc, qu'est-ce qu'on verra se mettre en place? Il y a davantage de flexibilité. Flexibilité parce qu'il va falloir qu'on improvise de nouveaux lieux de travail, de nouveaux agencements, de nouvelles infrastructures et puis aussi un design plus adapté. Évidemment, on se retrouve quand même avec ces open space. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? On va certainement les compartimenter avec des panneaux acoustiques, avec des écrans en plexiglas. Que l'idée, c'est quand même d'empêcher la programmation et la propagation de ce virus. Et puis, on peut se poser la question aussi du flexi-office qui avait été mis en place par pas mal de boîtes américaines, qui est arrivé en Europe et puis qui a fini par gagner la France. Le flexi office, je le rappelle pour certains,
oui, c'est ceux qui ont la chance de ne pas connaître.
Oui, mais c'est ceux qui, pour qui, je trouve pas que ce soit une chance véritablement, à part peut-être pour les jeunes générations ou le faire de temps en temps, mais pas tous les matins. C'est ne pas avoir de place attribuée pour changer de bureau en fait, hein, de bureau chaque jour. L'idée, en fait, c'est d'adopter des points de vue différents en étant à un bureau différent, donc dans une configuration différente. Ça veut dire que aujourd'hui, tu es au bureau de ton voisin et puis le lendemain, vous switchez. Là, en revanche, il va falloir, du fait des circonstances, réimposer à chacun de conserver sa place pour la désinfecter plusieurs fois par jour et répondre à des mesures sanitaires drastiques, si on veut rester dans l'espace de travail avec son équipe.
Oui, parce qu'enfin, le flexi-office, sur le papier, c'est très joli. En réalité, peut-être qu'on a un peu besoin, quand on vient à son travail, d'avoir des habitudes, non pas des habitudes qu'on pérenniserait à travers de nombreuses années, mais ne serait-ce que 2 mois, rester à une place, puis bouger. Voilà, on est quand même des animaux qui ne sommes plus nomades depuis...
Non, absolument. Absolument, et puis adopter un point de vue différent chaque jour lorsqu'on est dans une mission ou dans une tâche qui demande de la réflexion et qui demande de la concentration. Voilà, c'est extrêmement difficile. Alors, à moins d'être peut-être adapté à digital native où on fait plusieurs choses à la fois et où cette nouvelle génération peut switcher, passer d'un poste à l'autre, d'une activité à l'autre en quelques heures, mais je ne pense pas que ce soit le fait de toutes les générations.
Évidemment. Bah, peut-être qu'on a l'intention de faire cesser de travailler les gens à partir de 40 ans.
Ce serait génial, en fait. Des loisirs, que des loisirs à partir de 40 ans.
Oh mon Dieu. Oui, mais alors ça s'ajoute, dissocier, la réponse est simple, répondre à l'adaptabilité. Mais qu'en est-il dans le travail maintenant? Qu'en nous propose-t-on dans le travail pour pallier cette...
Oui, l'adaptabilité, elle prend plusieurs formes aujourd'hui parce que, en fait, évidemment, le travail à distance est devenu, comme tu le disais, la nouvelle norme. Nouvelles normes aujourd'hui d'autant plus, et puis dans l'incertitude, on a aussi un droit de retrait, on a cette possibilité aujourd'hui, c'est très utile, mais ça ne constitue pas une réponse à long terme, ça c'est certain, à moins de vivre un confinement full time, c'est-à-dire toute l'année 24-24, mais ça on ne le désire pas. Donc beaucoup d'entre nous ne désirent pas travailler chez soi. Chez soi, pourquoi ? Parce que le domicile n'est pas forcément le plus adapté, le lieu le plus adapté. Parce que, comme je te le disais, les nouvelles générations un peu plus jeunes sont plus enclines à dissocier véritablement la vie professionnelle de la vie personnelle. Donc, savoir mieux que nous mettre des barrières. Et puis, les conditions dans lesquelles travailler chez soi, on n'a pas forcément un bureau dédié, on n'a pas forcément le bon matériel informatique, ni les bonnes conditions réseau. Ensuite, beaucoup d'entre nous travaillent avec des réseaux privés, la cybersécurité des entreprises.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Il s'agit de faire attention aux données qui pourraient être hackées beaucoup plus facilement quand on est chez soi dans son petit appartement. Par des gens peu recommandables.
Tout à fait. Et puis justement, quand on est chez soi, il y a aussi la présence des enfants, la présence du conjoint ou de la conjointe. Donc en effet, on imagine que le logement doit pouvoir accueillir tous ses occupants sans provoquer une implosion de la cellule familiale, mais c'est pas forcément le cas. Donc ça entrave le flexi-travail parce que là, du coup, tu te retrouves à la table de la cuisine, puis à la table du salon, et puis par terre, et puis voilà. Donc, pas simple.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce nouveau monde? Il va falloir construire d'autres logements, il va falloir réaménager son espace de vie.
Oui, dans l'idéal, justement, le futur des logements, mais aussi les futurs lieux de travail des entreprises, comme je te le disais, devront avoir cette capacité de s'agrandir ou se réduire au gré des mutations, qu'il s'agisse de la cellule familiale, mais aussi, si on est sur son lieu de travail, de la présence des équipes de travail. Mais tout ça en étant sûr de pouvoir maintenir une distance, évidemment, sociale. Et puis pour les logements privatifs, peut-être pouvoir se transformer intégralement en espace tertiaire, c'est-à-dire accueillir une activité professionnelle en flexi, donc pas full time.
Les hôtels font ça comme ils sont vides en ce moment. Ils accueillent des tas de gens qui n'ont pas envie d'être dans des coworking, qui ont envie d'être avec juste une personne et partager une pièce et un bureau. Et ça marche assez bien, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça marche même plutôt très, très bien. Puisque donc ces hôtels, ils ont très bien compris que depuis ces dernières années, il faudrait, et là ça n'est que le début, et on pourra en parler dans une autre tendance, mais ils devront évidemment eux aussi muter, se transformer. Là, avec le télétravail, ils peuvent partager leur lobby, leur salle de réunion, jusqu'à leur chambre. C'est vraiment le hôtel office. Donc ils ouvrent leur établissement au travail partagé. Donc, comme tu le disais, c'est un moyen de rentabiliser les espaces non exploités à certaines heures de la journée. Oui. C'est aussi s'ouvrir à une nouvelle clientèle, une clientèle locale, par exemple, qui vient alimenter non seulement par sa présence et les lieux, mais aussi profiter du café, du restaurant. Et y a pas mal d'hôtels qui l'ont très bien compris, évidemment, les gros hôtels, hein, qu'il s'agisse de... Accor Hotel ou Best Western, avec une offre qui s'appelle My Working Space et qui permet en fait de proposer des forfaits à l'heure, à la demi-journée, à la journée, des abonnements, des services de restauration, etc. Donc qui fait que l'hôtel devient la parfaite synthèse pour satisfaire cette nouvelle clientèle qui est peu coutumière ou qui n'aime pas trop non plus les espaces de coworking, comme tu le disais, trop impersonnel.
Donc ça, c'est un aspect positif de la situation, puisque les personnes et les groupes qui n'avaient jamais pensé à travailler ensemble peuvent se mettre ensemble, mettre leurs énergies, comme tu le dis, hein, aujourd'hui.
Oui, tout à fait, mais il n'y a pas que ça. Hein. On parlait, il y a les espaces, les vrais espaces des coworking traditionnels comme WeWork ou WeAre, qui ont fleuri ces dernières années, justement pour répondre à ce besoin d'économie collaborative, de flexibilité, et aussi parce que les entreprises aujourd'hui, elles veulent s'éloigner des engagements immobiliers traditionnels, tout ce qui est sur le long terme, et travailler justement dans des environnements qui sont, en fait, elles veulent disposer d'un nombre de mètres carrés, par exemple, selon leur fonction, leurs besoins, et ne payer que ce qu'elles consomment.
Mm-hmm. Et ça, oui, mais en général, elles veulent beaucoup plus que des bureaux classiques. Les gens veulent, dans les entreprises modernes et très jeunes, ils veulent avoir une table de ping-pong, ils veulent avoir non pas une machine à café, mais une cafétéria sympa avec des canapés. Et ça, ce sont de nombreux mètres carrés. Comment on fait pour, si on veut payer le juste prix au mètre carré, on peut pas avoir ça.
Absolument. Et justement, c'est pour ça que les immeubles qui accueillaient jusqu'à récemment des bureaux se vident au profit justement de ces fournisseurs d'espaces de travail flexibles qui peuvent être très facilement personnalisables et qui peuvent aussi, soi-disant, proposer des environnements qui sont conçus pour favoriser la productivité et la collaboration. Donc, ça veut dire que on est devant une transformation accélérée pour les entreprises aussi, qui sont confrontées à des défis vraiment sans précédent, parce qu'elles doivent repenser non seulement la manière dont elles travaillent, mais aussi toute leur stratégie immobilière. Voilà. Oui. Donc ça veut dire que l'on sera aujourd'hui amené, tu le disais tout à l'heure, à être des nomades du travail. Des nomades du travail, c'est-à-dire travailler, être capable de travailler chez soi, mais aussi ponctuellement, mais de manière récurrente, dans de nouveaux espaces de travail. Et en réduisant le nombre de personnes, évidemment, en salle de réunion, etc.
En fait, oui, c'est une autre façon de voir le flex office, mais est-ce que c'est pas inquiétant pour certains employeurs qui ont besoin, qui aiment avoir la main sur leurs employés, parce qu'ainsi, ils échappent au contrôle?
Voilà, tout à fait. Comme tu l'as dit, c'est qui aime, donc qui désire avoir la main, parce qu'en fait, il a été prouvé prouvé et éprouvé qu'on pouvait très bien travailler à distance, on était plus efficace, on gagnait même de 15 à 20 minutes, voire jusqu'à 40 minutes d'efficacité. Mais comme tu l'as dit, des systèmes rigides et comment dire, et tout ce qui est hiérarchie du haut vers le bas, a besoin d'avoir ce monitoring, cette surveillance de ses employés qui, selon eux, lorsqu'ils sont sur le lieu de travail, sont plus efficaces parce que un petit peu sous le joug de la pression de leur hiérarchie qui est dans les mêmes locaux qu'eux. Sauf qu'aujourd'hui, ça change. Et puis, on a des nouvelles générations aussi qui ont vraiment adopté très, très vite un mode de travail qui leur permet d'être ici et maintenant où ils ont envie de se trouver et pas où on leur impose de se trouver.
Ah, ça, c'est génial. C'est vrai que ça va être génial, mais ça va être génial surtout pour ceux qui travaillent dans les services, pour ceux qui travaillent dans des lieux où on a besoin de leur présence. Ça sera tout autre chose. Ils auront droit à l'entier monde. Ils seront les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les gens qui travaillent dans les magasins. Ils n'auront pas ce luxe de proposition.
Absolument. Et c'est là qu'est toute la difficulté. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est tout ce qui est travail qui ne demande pas en fait une présence physique. Par exemple, en caisse, quand on est en boutique ou en magasin, on aura besoin de nos caissiers, nos caissières, etc., leur présence. Pour elles, peut-être c'est aussi réduire le temps de travail, aménager les horaires, travailler moins. Pour l'instant, ça, c'est encore une autre dimension. L'étape d'après, ce sera celle-là, c'est réorganiser justement le travail, puisqu'on risque d'être confronté à ces obligations-là aussi, travailler moins et mieux peut-être, mais c'est aussi en fait une idée, en fait c'est casser les silos et sortir de ces idées préconçues du travail. Et moi ce qui m'effraie un petit peu c'est l'automatisation. C'est-à-dire que là où on avait justement ces présences physiques, on soit amené à une totale automatisation. Ça veut dire que tu n'auras plus comme contact qu'une machine et non plus une présence physique. Voilà.
Ouais. Ça, c'est le début de la fin. Bon.
Mais en 2030, quoi.
Oh, ben, tant mieux alors. Pas tout de suite.
Non, pas pour tout de suite.
Bon, ben alors, c'est un très beau tour d'horizon de ce qui nous attend dans les bureaux. Tu vois ça à quelle échéance d'ici 2 mois? Parce que tout de suite, hein, les choses accélèrent. Hein. En fait,
ce sont des tendances existantes qui s'accélèrent. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, par exemple. Il y a pas mal d'entrepreneurs français qui sont partis aux États-Unis, dans la Silicon Valley en l'occurrence. Là, je prends les exemples extrêmes. Mais qui font ça, qui ont des entreprises qui travaillent avec 200 employés et chacun est en home office. Et pourtant, ce sont des entreprises qui marchent super bien. Donc, ça existe déjà aux États-Unis depuis un bon moment. Nous, on est un petit peu en fin de peloton. Mais c'est déjà en place pour des contraintes sanitaires, mais aussi parce que, disons que c'était un petit peu le rêve caché de nombreux, de beaucoup d'entre nous.
Bon, ça ne sera pas le nôtre en tout cas, mais on sait que ça existe, que ça va se passer demain ou après-demain. Et puis, nous, on se quitte, mais on espère se retrouver très vite pour des tendances un peu plus joyeuses quand même, parce que le monde du travail, même s'il nous apporte beaucoup d'équilibre, quand il est comme ça, il m'inquiète un peu, je dois avouer.
Mais en fait, disons qu'on va essayer de trouver le meilleur de chaque chose dans les contraintes et la difficulté, je crois. Donc, la prochaine tendance, on y réfléchit, on essaye de trouver quelque chose d'encore plus gai.
Oui, au liqueur.
Au liqueur.
À la semaine prochaine.
Semaine prochaine.
Merci.
Salut.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.
À mettre un commentaire ou 5 étoiles.
À suivre le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story.
À découvrir les autres épisodes des gens en ligne.
à parler de moderne autour de vous.
Un grand merci.
Katia Barillo et
Sandrine Maggiani,
fondatrice du podcast Moderne.